Bonsoir. Plusieurs réactions sont enregistrées au lendemain de l'adoption du projet de la loi électorale par l'Assemblée nationale. Parmi ces réactions, il y a celle des ministres de l'opposition, membres du gouvernement Tshibala. Ces derniers ont déclaré que le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par Bruno Tshibala n'est pas celui qui avait été adopté au Conseil des ministres. Ils l'ont dit lors d'une réunion avec le président du CENSA mardi dernier à Kinshasa. Ils affirment avoir le sentiment d'avoir été trahis. Comment analyser ces différentes réactions? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Maître Claude Bafouafoua. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Vous êtes cadre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, El Kassavoubou. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa et aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Honorable Paulin Kachongo, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Hiron.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au lendemain de l'adoption du projet de la loi électorale par l'Assemblée nationale, les ministres de l'opposition membres du gouvernement Tshibala se sont réunis mardi dernier autour du président du Conseil national de suivi de l'accord Joseph Olenghankoy. Ces ministres opposants, à l'exception du premier ministre Bruno Tshibala, ont évalué avec Joseph Olenghankoy la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, plus particulièrement l'adoption du projet de loi électorale à l'Assemblée nationale. Si rien n'a filtré de cette réunion, des indiscrétions recueillis auprès de quelques participants à cette rencontre, révèle cependant que le projet de loi déposé à la Chambre basse du Parlement par Bruno Tshibala n'est pas celui qui avait été adopté au Conseil des ministres. Michel Kifindangoy.
L'examen et l'adoption du projet de loi électorale par l'Assemblée nationale continuent à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après le boycott par l'opposition parlementaire de la séance au cours de laquelle le texte a été voté, c'est au tour de l'opposition gouvernementale de se positionner face notamment à ce projet de loi controversé. À l'issue de leur réunion, rien n'a été dit officiellement. Pour les participants, la primeur des retombées de cette rencontre est réservée au chef de l'État, comme le souligne ici Joseph Olenghankoy.
Conformément à l'accord, nous avons droit à une concertation, surtout que nous sommes vers la fin de l'année. Nous devons faire un bilan d'ensemble sur la marche de la République. C'est dans ce cadre-là que les ministres sont venus pour nous permettre de faire l'évaluation de l'accord, qu'aujourd'hui, ce processus qui est tant attendu par notre peuple devient irréversible, que nous avons aborder toutes les questions d'intérêt national. La primaire de mes entretiens, je les dois au président de la République.
Toutefois, certaines indiscrétions recueillies auprès de quelques membres du gouvernement présents à cette réunion renseignent que le texte de loi déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre est différent de celui adopté en Conseil des ministres, d'où leur sentiment d'avoir été trahi.
Merci Michel Kifindangoy. Maître Claude Bafouafoua, vous êtes cadre du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, El Kassavoubou. Comment vous analysez cette réaction des ministres de l'opposition, membres du gouvernement Tshibala?
Merci pour la parole. Je pense en un premier temps, il y a 3 ou 4 questions qui peuvent être posées. D'abord, le journaliste qui a intervenu a parlé qu'il n'y a pas eu de déclaration officielle de cette réunion qui a eu entre le président du CENSA, M. Joseph Olenghankoy, et les ministres de l'opposition. Et que le journaliste a continué selon certaines indiscrétion recueillie. Le texte qui fait objet d'études au niveau du Parlement et qui a été même adopté au niveau de l'Assemblée nationale, que ce texte ne serait pas conforme à ce qui a été débattu au Conseil des ministres et qui a été déposé, le texte n'a pas été conforme en bref. Donc le texte qui a été déposé au Parlement n'a pas été celui-là qui a été débattu au Conseil des ministres, selon certaines indiscrétions. Pour être vraiment rassuré que le texte qui a été déposé au Parlement n'est pas conforme à celui qui a été adopté en Conseil des ministres, parce qu'il s'agit là d'un projet de loi. Le projet de loi est toujours pris par le gouvernement. C'est le gouvernement qui prépare le projet de loi et le dépose au niveau du gouvernement. Donc, si certaines indiscrétions ont dit que ça serait un autre document que celui qui a été débattu, nous nous trouvons devant un problème. Nous pensons que lorsque les ministres se réunissent en conseil de ministres, il y a un procès verbal sanctionnant leur réunion. Le commun des mortels ou la population ne peut pas accéder à ce document-là. Donc, il y a des institutions qui peuvent vérifier si le texte qui a été, dans le cas où les indiscrétions sont fondées, si le texte qui a été déposé au Parlement, c'est celui-là qui a été en conseil de ministres, qui a été traité en conseil de
ministres.
Alors,
au-delà de toutes ces considérations, maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Ces ministres ont-ils été réellement trahis?
Je ne peux pas dire quelque chose, je n'ai pas été avec les ministres, sinon le journaliste a dit selon certaines indiscrétions.
Qu'à cela ne tienne, on sait que le RASOP El Kassavoubou a infligé un carton rouge à ce projet de loi adopté à l'Assemblée nationale, en les jugeant d'anticonstitutionnels, en les traitant de tous les noms.
Ce qui est vrai. Et même maintenant, nous levons le carton rouge, parce que ce texte est réellement anticonstitutionnel. Ce texte ne permet pas à ce que la démocratie puisse être jouée avec franc jeu.
Et ces ministres sont du Rassemblement et donc de fil en aiguille, leur réaction se justifie.
Bon, le journaliste n'a pas été précis. Il a dit selon certaines indiscrétions.
Mais du moins, maître, si on fait une certaine analyse, on met les cartes en place en observant votre réaction, RASOP El Kassavoubou, et celle de vos ministres qui sont au gouvernement, il y a une certaine logique.
Nous pensons qu'un texte qui passe en conseil de ministres suit une certaine procédure. S'il y a des ministres qui ont pu déclarer que ce test n'est pas conforme à ce qu'ils ont adopté, nous pensons, puisqu'ils sont de notre obédience en tant qu'opposition dans le rassemblement, que quelque part, ils ont trouvé qu'il y a des choses qui ont été dites au conseil de ministres et qui ne sont pas conformes. Donc, jusque-là, nous sommes dans les suppositions parce que nous n'avons suivi aucun ministre. Même dans ce cas-là, nous pouvons dire que nous nageons de la même façon.
Alors, mais au niveau du RASOP El Kassavoubou, en infligeant ce carton rouge au projet de loi électorale, vous vous êtes basé sur quels éléments?
Nous nous sommes premièrement basés sur la Constitution. Au niveau de la Constitution, vous savez, la liberté d'association est consacrée. Lorsque la loi commence à diminuer cette liberté, il y a un problème. Et dans le cas d'espèce, lorsque on veut parler du pourcentage que un parti politique doit pouvoir recueillir à l'échelle nationale pour se voir retenu comme candidat, il y a un problème. Pour aller aux élections, il y a des candidats indépendants. Les candidats indépendants, c'est celui-là qui est dans un fief. On peut parler, par exemple, il va battre campagne seulement à Kipushi. Et à Kipushi, puisqu'il est connu là-bas, il fait des activités sociales et il est aimé par la population, on a ceux qui se sont enrôlés à Kipushi peuvent être à 300 000 électeurs. Et lorsque lui veut devenir pour cette contrée député, il veut être candidat, il va obtenir, admettons, 200 000 voix. Et lorsque on prend le seuil sur le plan national, le seuil est peut-être de 1 500 000 voix. Et le député le mieux aimé dans cette contrée ne peut pas réaliser 1 500 000 voix.
Et donc, il n'aura pas le siège.
Il n'aura pas le siège. Par contre, c'est lui qui est mal élu et qui se trouve dans une liste. Quelqu'un qui a eu, par exemple, 2 voix, mais qui se trouve sur une liste qui a 1 500 voix.
Merci. Celui-là va occuper le poste de député
à Kipushi.
Voilà. Honorable Pauline Kachongo, vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez ces différentes réactions, notamment celles des ministres de l'opposition, membres du gouvernement Tshibala?
Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Vous devez savoir d'abord que le droit est formaliste. Et cela signifie quoi? Cela signifie que pour notre chambre, nous ne pouvons être saisis, que ce soit pour la chambre basse ou la chambre haute, disons le Parlement, en cette matière-là, de projet de loi, ne peut être saisi que par le Premier ministre qui représente le gouvernement. Donc, il va de soi que, pour nous, cette question de dire que c'est un texte qui n'était pas légal, qui n'était pas original, il nous est difficile de le savoir. Il n'y a que le Premier ministre lui-même qui peut dire si c'était un faux ou un vrai. Mais,
honorable Kachongo,
oui.
Je vous en prie, si vous êtes à côté d'une radio, essayez de vous en éloigner, il y a un petit bruit.
Je ne suis pas à côté d'une radio.
Ah, je vous en prie, allez-y alors.
Je ne suis pas à côté d'une radio.
Je vous en prie, allez-y. Donc, oui, vous disiez que c'est le Premier ministre qui est le seul à savoir si le document déposé est un vrai ou un faux.
Oui, en ce qui nous concerne, parce que lui a transmis un document au Parlement à travers la Chambre basse. Et la Chambre basse a traité ce document en bonne et due forme pour l'acheminer à la Chambre haute en deuxième lecture. Et c'est à ce moment-là que nos amis de l'opposition, d'après ce que je viens de suivre, font état d'un deuxième document qui aurait été, validé au niveau du gouvernement. Et il y a quelques points que moi je devrais soulever à ce niveau-là. La première des choses, c'est le fait que nous sommes des hommes politiques et nous sommes des hommes d'État. Un homme d'État, c'est celui qui, même si... En conseil, j'ai beaucoup d'estime pour tous les ministres qui sont au gouvernement, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, mais je pense que lorsqu'il y a un conseil qui se tient ou une réunion qui se tient dans le cadre du gouvernement, ils sont tenus au secret, n'est-ce pas, de leur délibération. Qu'ils soient minorisés, qu'ils soient majoritaires, tous sont tenus à ce secret-là. Je parle d'une façon générale. Je ne juge personne, parce que je vous ai dit au départ que nous sommes de la majorité, nous sommes au Parlement, et le texte qui nous a été envoyé, c'est un texte qui est venu du gouvernement. Donc on n'est pas devin pour dire non, voilà, ce texte n'est pas correct, c'est un faux ou bien c'est un vrai.
Honorable Kachongo.
C'est la première des choses. La deuxième des choses, toujours dans le cadre du formalisme du droit. Je suis dans un cadre purement juridique. À la deuxième des choses, toujours dans le cadre du formalisme du droit. C'est-à-dire que la chambre haute, que ce soit la chambre haute ou la chambre basse, lorsqu'il y a un texte qui vient en deuxième lecture, pour ne pas dire en seconde lecture, c'est vrai qu'il y a un texte martyr, mais on se réfère le plus souvent au texte qui vient de l'autre chambre. C'est vrai, en s'appuyant aussi sur le texte martyr pour faire un certain parallèle dans le cadre des amendements à y porter. Ça, c'est sur le plan formaliste, tout simplement. En ce qui concerne le fond, je dis bien en ce qui concerne le fond, Je pense que, de part et d'autre, l'option du seuil a été acceptée. Et par la majorité, et par l'opposition. D'après ce que j'ai suivi. Parce que si le seuil a été accepté, c'est à cela que repose la réforme même de la loi électorale. Et nous n'inventons pas la roue.
Honorable Kachongo, vous parlez de l'opposition qui a accepté le principe du seuil, mais cette loi a été adoptée sans l'opposition. Vous parlez de quelle opposition, s'il vous plaît?
Mais justement, c'est ce que je vous dis. Bon, écoutez, il y a les membres de l'opposition qui étaient dans la salle, qui ont voté. Ça, c'est un petit détail. Je voudrais tout simplement vous dire, même lorsque les autres réclament, ils disent non, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on va dans les fonds. Je crois que c'est au niveau du seuil. Parce que cela a transpiré déjà dans les discussions au niveau de la Chambre basse. La réforme réside donc à l'installation de ce seuil-là. Le seuil qu'on a mis au niveau national, c'était en fait un besoin qui s'est présenté au niveau de notre environnement politique parce qu'il fallait l'assainir et essayer de le moraliser. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons aujourd'hui près de 1000 partis politiques dans cette République. Au nom de la démocratie toujours. Parce que chacun veut être autorité morale, chacun veut être président général ou président de son parti politique. Alors, les autres ont dit non, nous devons mettre ce seuil au niveau de la circonscription, parce que je venais de suivre l'ami, l'intervenant de tout à l'heure, qui a dit non, il faut qu'on protège aussi les indépendants. Ce qui est tout à fait vrai, parce que le projet de loi ou la loi qui est sous examen aujourd'hui au Sénat, parce que chez nous elle est déjà partie, c'est une loi qui a parlé aussi des indépendants.
Honorable Kachongo.
Cette loi, excusez-moi.
Je vous en prie.
J'ai beaucoup de temps pour parler.
Honorable, s'il vous plaît. J'ai un chrono devant les yeux. Le temps de parole, il est équitable. Si nous monopolisons la parole, les auditeurs qui nous suivent ne comprendront pas les enjeux autour de cette loi. Vous dites des très bonnes choses. Permettez-moi également de vous relancer pour mieux éclairer la lanterne des auditeurs qui nous suivent. Et donc, dans votre propos, vous avez dit que si le Premier ministre était le seul à savoir si les documents déposés étaient un vrai ou un faux. Et donc, si jamais il y a eu manipulation, le Premier ministre, en d'autres termes, serait complice.
Ça n'engage que sa responsabilité. C'est lui qui engage la responsabilité du gouvernement. Ça n'engage pas la responsabilité de la Chambre basse. Vous comprenez? Ça n'engage que nous, lorsque le Premier ministre écrit au Parlement, que ce soit au niveau du président du Sénat ou au niveau du président de l'Assemblée nationale, c'est ça la formule même consacrée. Il n'y a que le Premier ministre qui écrit. Et ce n'est pas un quelconque ministre qui va écrire pour saisir les deux chambres, non. Il n'y a que le Premier ministre qui saisit. Ça, c'était le premier point du formalisme des droits que je voulais vous dire.
Merci, honorable. Je vous redonne la parole tout à l'heure. De faire parler le professeur Félicien Kabamba, professeur à la Faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa et chercheur au Centre d'études politiques de cette université. Professeur, comment vous analysez cette situation? Une loi adoptée dans un contexte de manque de consensus et curieusement, on sent un peu la tricherie, le faux. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Par principe, une loi électorale est une loi consensuelle parce que c'est une loi qui pose le base de 1. Processus de construction du vote et 2. Le processus de, si vous voulez, de distribution de trophées politiques. Ces deux axes importants de la loi aujourd'hui sont au cœur de cette dispute entre majorité et opposition. Tant il est vrai qu'au niveau de la majorité, la loi est aussi, et ça il faut le dire, un élément de la stratégie du combat politique de la majorité. Et il me semble bien que l'opposition ne s'est pas retrouvée dans cette stratégie. Tout naturellement, l'instinct de conservation, l'instinct de survie, fait également qu'aujourd'hui, l'opposition s'est dit, nous ne nous sentons pas concernés par cette loi. Alors, cela suscite également un autre, parce que jusque-là, on a vu qu'il y avait manque de cohésion au niveau du Parlement. Cette absence de cohésion est en train de migrer également vers le gouvernement. Alors que, il n'y a pas longtemps, on ne sentait pas qu'au niveau du gouvernement, évidemment en dehors de l'UNC qui a tenté de retirer son membre qui finalement a désisté, on semble voir que il n'y avait pas de discordance au niveau du gouvernement, ou qu'il y en avait, mais que le ministre n'osait pas prendre parole. Aujourd'hui, le manque de cohésion semble avoir atteint le gouvernement, parce qu'il y a là une question fondamentale, la question de l'avenir des acteurs politiques. Et la loi pose cette question d'avenir des acteurs, parce qu'avec cette loi, certains acteurs majeurs peuvent disparaître. Et donc, à travers ce qui se dessine, on semble voir deux types de clivages. Un premier clivage, c'est le clivage entre majorité et opposition. Le deuxième, c'est entre le Premier ministre, parce que c'est finalement lui qui a porté la loi au niveau du Parlement, et donc personne ne pourra dire qu'il ne l'a pas lu, une loi que lui-même a amenée au niveau du Parlement, et sa propre base, parce que finalement, on semble voir qu'il y a le rejet de la loi par le Rassemblement Kassavubu. C'est-à-dire qu'il y a là un désaveu du Premier ministre, étant donné que c'est lui qui a amené la loi. A-t-il lu la loi qu'il a amenée, ou tout simplement il a amené un document qui lui a été passé et qu'il n'a pas lu? Il y a là véritablement plusieurs questions à se poser. Donc, d'une manière
sérieuse. Parmi les questions, professeur, j'ai demandé à Maître Claude Bafoifoi, pardon, à l'honorable Kachongo, est-ce que le Premier ministre ne serait-il pas complice? Je parle au conditionnel.
Alors, je ne parlerai pas de complicité, mais il a une grande responsabilité. Parce que le Premier ministre était censé avoir recueilli les avis de ses pairs de l'opposition. Il était aussi censé avoir partagé la loi. Si jamais cette loi n'était pas celle qui a été, si vous voulez, débattue au niveau du Conseil des ministres. Alors, il y a là véritablement beaucoup de zones d'ombre à éclaircir.
Alors, professeur, cette réaction des ministres de l'opposition, membres du gouvernement, est-elle sincère, naïve ou frise une certaine complicité?
Alors, de mon point de vue, il y a un véritable problème de confiance au sein du gouvernement. Eh bien, la réaction du ministre, c'est aussi un désaveu du Premier ministre. Comment le Premier ministre est allé déposer une loi qui finalement est contestée demain par... Alors, la contestation du ministre de l'opposition est une contestation à l'endroit de la majorité ou à l'endroit du Premier ministre, parce que c'est lui qui assure la responsabilité du dépôt de ce texte. Je crois qu'il faut trouver une véritable cible. La cible, c'est laquelle? C'est la majorité ou c'est le Premier ministre? Il faut que le Premier ministre ait également à prendre la parole pour éclairer la lanterne. Tant qu'il ne prendra pas parole, eh bien, il me semble bien qu'il va laisser un véritable flou et... les gens vont s'exprimer et ça va aller dans tous les sens.
Professeur, il y a Paulin Outou qui nous écrit de Lubumbashi qui dit la position de ses opposants marque le début d'un divorce entre le Premier ministre et ses acolytes, ce qui montre que Bruno Tshibala œuvre pour la majorité présidentielle. Il est temps que chacun prenne sa vraie position pour savoir si ceux qui se disent trahis sont réellement du côté du peuple.
Alors, c'est évidemment l'argument que je venais d'évoquer tout à l'heure. Il faut que lui-même, le Premier ministre, s'exprime sur la question. Son silence...
Pour lever tout équivoque.
Absolument. Son silence inquiète. Qu'est-ce qui est véritablement arrivé? Il faut que le Premier ministre s'exprime. Y a-t-il eu tricherie, comme les uns le prétendent? Ou alors, il y a quelque chose? A-t-il, en âme et conscience, transmis un texte qui n'était pas celui consensuel au niveau du Conseil des ministres? Véritablement, là, il faut que le Premier ministre apporte une précision. Tant qu'il ne les aura pas portés, il y a quand même beaucoup d'inquiétudes à se faire sur sa capacité de mener ce navire.
Professeur, il y avait déjà un précédent fâcheux entre le Premier ministre et le président du CENSA lors de la tripartite CENSA-CENI gouvernement, où le président du CENSA avait paraphé au lieu de signer. Certains analystes avaient estimé que le Premier ministre lui avait volé la vedette et que le courant n'était pas déjà bon à l'époque. Et ce deuxième fait vraiment vient tout gâcher.
Alors, là, c'est, je crois que là, vous êtes dans une cuisine interne au rassemblement, donc au Rassemble Kassavubu. Dans ce qui apparaît comme une apparente cohésion, là-dedans, il y a à boire et à manger. Il me semble bien qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent à l'intérieur du Rassemble et qui n'arrivent pas à mettre ces acteurs ensemble. Certainement que cette cohésion apparente va du jour au lendemain céder.
Maître Claude Bafoifoy, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Augustin Tendiongé, je suis à Bukavu, dans la province du sud Kivu. Je me demande si ce n'est pas un geste du TikTok auquel ce soi-disant ministre de l'opposition, le CENSA, et le Premier ministre Bruno Tshibala veulent jouer pour s'innocenter auprès du peuple congolais. Car il n'y a pas longtemps, le président Olenga Nkoy avait paraphé sur un plan de climat de la tripartite, comme quoi il n'était pas d'accord de la résolution ici de cette tripartite. Mais, à la grande surprise de tout le monde, c'était lui qui était le premier à soutenir la publication du calendrier électoral. Je pense que le peuple congolais le plus vite, si ces ministres sont vraiment des opposants, qu'ils démissionnent pour la face du monde, qu'ils ont été trahis.
Voilà, il pleut abondamment sur Kinshasa. Veuillez nous excuser pour la qualité pas très bonne de cet élément. Maître Claude Bafoifoy, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur?
Bon, il y a un souci. Et la population qui suit serait inquiète que certains actes qui se passent sur la scène publique, sur la scène politique, et des incidences dans la conduite des choses de l'État. En ce qui concerne la tripartite, ce qui a été arrêté au niveau de la CENCO, c'est que la tripartite est organisée par le président du CENSA. C'est celui-là qui convoque. Et la mission de cette tripartite, c'est d'évaluer le processus électoral et d'apprécier s'il faut, oui ou non, prolonger le délai en vue des élections ou il faut aller directement aux élections. La tripartite a eu lieu. Le travail a été fait. Et que de cette analyse, on a constaté que il nous faut suffisamment du temps pour que les élections soient réellement organisées.
Au-delà de ça, Maître Bafoifoy, il y avait déjà des frictions entre le Premier ministre et le président du CENSA. Comme je l'ai demandé au professeur Félicien Kabamba, est-ce que ce nouvel épisode ne vient pas tout gâcher?
Nous disons qu'il s'agit des frictions protocolaires. Il s'agit bien des frictions protocolaires
qui ont une forte incidence sur la vie d'un regroupement aussi important que le RASOP.
Non, nous ne pensons pas. Les frictions protocolaires n'ont rien à voir avec le fond de la chose. Et le fond de la chose, c'était les résolutions qui devaient sortir de la tripartite, notamment après avoir évalué le processus électoral. Donc, si son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est mis à la place, sur la chaise sur laquelle le président du CENSA devait se mettre. Ça, c'est protocolaire. Alors, ça ne gâche pas le fond.
Alors, revenons à notre débat de ce soir. Du moment où les ministres désavouent, pratiquement comme l'a dit le professeur, c'est un désaveu à l'endroit du Premier ministre.
J'ai bien dit que d'abord, le journaliste a dit selon les indiscrétions. Admettons que en dehors de discrétion, ça soit un problème réel. En ce cas-là, il faut vérifier. Est-ce que le texte qui a été distribué au niveau des députés est celui-là qui a été déposé par le Premier ministre? C'est un problème. Donc, est-ce que le texte qui a été débattu en Conseil des ministres est celui-là qui a été déposé au niveau des députés? Donc, là, il nous faut un contrôle.
Mais en infligeant ce carton rouge à la loi, est-ce que ce n'est pas aussi le Premier ministre que vous désavouez?
Nous ne sommes pas dans la guerre des personnes. Nous sommes dans la guerre des principes. Lorsque une loi est anticonstitutionnelle, nous disons à cette loi carton rouge.
Donc, cette loi supportée, portée à bout de bras par le Premier ministre Durasop El Kassavoubou et des membres du gouvernement issus de votre regroupement politique.
Monsieur le journaliste, au niveau du Durasop, ce sont des principes et des principes fondamentaux pour l'avenir du pays. Donc, si une loi a été votée dans un parlement où le RASOP a plusieurs députés et que cette loi ne concourt pas au bonheur du peuple, le RASOP, la base du RASOP, va faire carton rouge à cette loi.
Et donc, c'est un divorce consommé entre vous et vos ministres et le Premier ministre.
Nous disons très bien que sur le plan de principe, nous ne sommes pas d'accord. Merci. Mais en ce qui concerne les personnes, ça c'est un autre débat.
Merci Maître Claude Bafoifoi. Honorable Paulin Kachongo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Yves Poka à Kinshasa, si les allégations faites par les ministres de l'opposition, membres du gouvernement, s'avéraient vraies, les sanctions doivent être prises tant du côté de ces derniers pour n'avoir pas dénoncé à temps cette forfaiture avant l'adoption de la dite loi que du côté du ministre de l'Intérieur pour faux et usage des faux.
Honorable Kachongo, qu'est-ce que vous lui répondez?
Bon, écoutez, si cela s'avérait vrai, je vous ai dit que la responsabilité du gouvernement est engagée par le Premier ministre. La responsabilité n'est pas engagée par les individus. Et même lorsque, s'il faut vraiment que j'aille jusqu'au bout, j'aille dans mon raisonnement jusqu'au bout, je dirais en d'autres temps, je dis bien en d'autres temps, au lieu de dénoncer, c'est pourquoi j'avais dit que j'avais beaucoup d'estime pour les membres de notre gouvernement, j'ai dit au lieu de dénoncer, ces ministres, ces compatriotes auraient pu tout simplement dire non, nous nous démissionnons de ces gouvernements parce que nous estimons qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons avoir l'âme des hommes d'État, pas seulement des politiciens. À ce moment-là, vous démissionnez et vous laissez évoluer la chose. Parce qu'en fait, le problème n'est pas seulement dans la forme, le problème se situe au niveau du fond. J'insiste. Parce que vous ne m'avez pas laissé le temps d'expliquer, mais si vous me le permettez, je peux expliquer.
Allez-y, honorable. Allez-y, vous parliez du seuil.
Le problème est dans le fond. Le fond, c'est quoi? En fait, tout le monde s'accorde à ce que l'environnement politique national soit quand même nettoyé. C'est pourquoi tout le monde a accepté le seuil de 1% qui a été rabattu parce que le gouvernement nous l'avait envoyé à 3%, mais nous avons dit 3% c'est trop haut. Nous l'avons rabattu à 1% pour que tous ces partis-là qui se disent des grands partis, des partis qui émergent, qui ont des députés au niveau national, puissent, n'est-ce pas, avoir une certaine configuration pour atteindre ces 1%. Mais malheureusement, les autres disent non, il faut qu'on mette ce seuil-là au niveau de la circonscription. Or, nous ne pouvons pas mettre deux seuils au niveau de la circonscription, parce que le premier seuil au niveau de la circonscription, c'est le quotient électoral, qui est d'ailleurs difficilement atteignable par tous les partis de la République. Alors, lorsque le seuil n'est pas atteint, le quotient électoral n'est pas atteint, automatiquement on passe au plus fort reste, c'est la proportionnelle qui joue. Ça, c'est au niveau de la circonscription. Donc, ramener le seuil au niveau de la circonscription serait renier le seuil même que nous voulons mettre, que nous voulons, disons, établir comme une sorte d'une petite barrière pour éviter que les partis qui naissent comme des champignons, qui n'ont jamais eu d'élus, mais qui continuent à naître, puissent être arrêtés. Et la loi nous renvoie au regroupement. C'est-à-dire que nous pouvons nous regrouper pour que nous puissions atteindre ce seuil. Parce qu'aujourd'hui, cela vaut pour tous les partis.
Honorable Kachongo,
Oui.
Assainir l'environnement, oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec l'approche que vous soutenez.
Oui, c'est tout à fait naturel. Écoutez, ce n'est pas la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons inventée et nous n'allons pas inventer la roue. La Belgique qui s'est dit une vieille démocratie, mais il y a un seuil qui va même jusqu'à 10%, je crois. Il y a beaucoup de pays qui appliquent ces seuils-là. Est-ce pour autant que ces lois-là violent la Constitution? Est-ce pour autant que ces lois-là violent les libertés individuelles ou les droits des citoyens de leur pays? Je ne pense pas.
Merci.
Cela existe presque partout.
Merci, honorable Kachongo.
Qui est à côté là-bas, qui est un analyste avéré, ils peuvent le confirmer.
Merci, honorable Kachongo. Professeur Félicien Kabamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu Sud Kivu.
Robert Mahomé de Bukavu au Sud Kivu. Les ministres de l'opposition, membres du gouvernement Tshibala, ne doivent pas affirmer avoir été trahis. C'est faux. À mon sens, le projet de la loi électorale qu'ils ont présenté ou déposé à l'Assemblée nationale, c'est celui qui a été adopté par les députés nationaux. Ces ministres ne doivent pas distraire l'opinion de la sorte pour chercher à montrer qu'ils sont toujours de l'opposition, alors que le fait d'être au gouvernement Tshibala prouve qu'ils agissent bien au nom et pour les comptes de la majorité. Qu'ont-ils fait de spectaculaire pour le peuple congolais qui a été contraire aux actions de la majorité?
Professeur.
Ni l'auditeur de tout à l'heure, ni moi-même, personne n'a vu ce projet de loi qui a été débattu au niveau du Conseil des ministres. Et donc, jusque-là, nous nous fions, si vous voulez, à ce que la presse nous a présenté comme information. Et donc, il nous est très difficile aujourd'hui de pouvoir tabler sur une telle question aujourd'hui.
Alors, professeur, je ne vous arrache pas la parole. Pour contrer ce projet de loi, il y a le député de la majorité, Henri Thomas Lokondo, qui a promis de saisir la Cour constitutionnelle. Il y a les députés de l'opposition qui ont saisi le président du Sénat pour que la Chambre haute puisse rejeter ce projet de loi. Est-ce des solutions?
Alors, ça, c'est un signe. Un signe que le texte n'a pas été consensuel. Et c'est là le plus grand danger. Parce que les textes sur le mécanisme de dévolution du pouvoir, sur le mécanisme de construction du vote et de la répartition des sièges, doivent être des textes qui font consensus. À partir du moment où, aujourd'hui, il n'y a pas consensus sur ces textes, vous êtes là en train de planter une semence chrysogène. Et moi, je suis en train de voir qu'on va vers l'abîme. C'est très dangereux. Il faut qu'on arrive à dégager un consensus. Et à partir du moment où il n'y a pas consensus aujourd'hui, eh bien, les règles qui doivent régir la dévolution du pouvoir ne font pas l'objet d'un consensus. Comment voudriez-vous organiser les élections sur, si vous voulez, sur cette mésentente? Là, il y a un véritable problème. Mais une question qu'on peut se poser, c'est que, ok, la loi électorale, parce qu'il faut avoir des lois équilibrées. J'ai compris qu'il faut assainir la scène politique, mais il faut savoir que une loi peut venir résoudre le problème et en créer d'autres. Et ce que l'on reproche aussi à cette loi électorale, c'est qu'en fait, elle semble, si vous voulez, apporter une certaine disparité dans la représentation. Et cette disparité, sinon qu'elle apporte la disparité dans la représentation, ou alors elle en fausse le fondement. Je crois que c'est un débat très général, un très très bon débat. Comment arriver à assainir l'environnement politique qui est, si vous voulez, pollué par plusieurs centaines de partis politiques? Je crois qu'il faut un débat de fond. Et ce débat de fond, il fallait l'engager avant. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes pour assainir. C'est vrai qu'il parle de seuil, mais ce n'est pas le seul mécanisme pour assainir l'environnement.
Et professeur, vous avez suivi dans sa première intervention, Maître Claude Bafoifoi, et donné l'exemple de Kipushi, où quelqu'un d'autre prendrait le siège d'un élu, d'un monsieur qui serait plus populaire à Kipushi, ainsi de suite. Mais l'honorable Kachongo soutient que même en Belgique, il y a un seuil et il est de 10% en plus.
Oui, la question de seuil, c'est vrai qu'il y a certains pays qui l'ont adopté. Mais est-ce que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, est-on fondé à adopter les principes que les pays qui ont une culture politique très sécularisée ont adoptée. Tant il est vrai qu'aujourd'hui dans l'environnement, parce que ailleurs vous avez des très grands partis politiques qui peuvent à eux seuls mobiliser 50%, 60% de l'électorat. Chez nous, le plus grand parti politique, si on se réfère au résultat de 2011, il s'appelait le PPRD. Mais il a aujourd'hui combien de pourcentages? Et donc, vous avez là une multitude de petits partis qui existent, 3, 4, 5%, et ils sont, je crois, pas plus d'une dizaine. Et donc, pour le reste, c'est composé de plusieurs minuscules partis. Et donc, il faut savoir que dans la vie d'un parti, un parti naît un jour, il grandit, il arrive même à disparaître.
On en a l'exemple en France.
Et donc, il faut arriver à trouver de mécanismes d'encadrement de la croissance des partis et même du processus de leur disparition.
Et par exemple, en procédant au regroupement tel que prévu par la loi.
Exactement. En procédant, par exemple, au regroupement, ce serait un très bon mécanisme. Mais je crois que le débat qui est engagé ne manque pas de quintessence. Seulement, ça semble être trop rapidement fait. Et cela n'est pas toujours bien compris par tout le monde.
Et en d'autres termes, on est loin, professeur, très loin d'un processus électoral apaisé.
Pas du tout. À partir du moment où il n'y a pas consensus sur les règles d'acquisition ou de perte de pouvoir, je crois qu'on est en train là de planter une semence chrysogène.
Maître Claude Bafoifoi, l'émission est en train de se terminer. En guise de conclusion, comment vous, au niveau du RASOP El Kassavoubou, vous entrevoyez la suite du processus électoral après tout ce que vous avez dénoncé concernant le projet de loi électorale?
D'abord, il faut avoir dans ce pays beaucoup de courage pour dénoncer et dénoncer dans une maison. Si votre femme ne marche pas sur de bonnes traces, vous ne vous séparez pas, mais vous vous parlez vrai.
Et ici, ne serait-il pas que vos ministres quittent le gouvernement et le Premier ministre aussi?
Ici, il s'agit de recadrer les choses. D'abord, nous sommes sur des suppositions. Nous ne savons pas si le test qui a été transmis était un autre test, et c'est lui qui a été distribué aux députés.
Ça, vous l'avez déjà dit, mais du moins, vous, au niveau du RASOP, vous avez protesté contre ces projets.
Est-ce que cela justifie que nos ministres déposent? Parce que le problème...
Parce que vous, la base, vous n'êtes pas d'accord avec.
Oui, le problème peut être au niveau du Parlement et non pas au niveau du gouvernement.
Et en guise de conclusion, maître.
Donc, quant à nous, le test est anticonstitutionnel. Il ne favorise pas les uns, et il favorise ceux qui sont au pouvoir actuellement.
Merci. Honorable Paulin Kachongo, en guise de conclusion, vous avez soutenu que les problèmes de fond étaient plutôt sur la matière même, le fond, et non sur la forme. Comment vous entrevoyez la suite du processus électoral autour de cette table, et plusieurs analystes estiment qu'il est loin d'être apaisé?
Oui, je pense que nous disons la même chose. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que nous devons dépassionner les débats. Et pour les dépassionner, nous devons être, très regardants dans les textes. Je vous ai donné juste un petit élément, parce que vous êtes revenu sur le regroupement. On ne peut pas demander aux gens de se regrouper si la loi ne les dit pas. C'est le seuil qui va faire de sorte que les gens sentent les dangers d'aller en singleton, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, constituer ces regroupements-là et évoluer. Donc, le seuil n'est pas, en fait, quelque chose de mauvais. C'est quelque chose, je peux dire que c'est un catalyseur qui va pousser les gens à ce qu'ils puissent se regrouper afin que nous puissions évoluer, qu'on puisse avoir des grands ensembles, tel que vous l'avez dit. Parce que les seuils, si je donnais un cas, le cas de la Belgique, c'est un cas qui m'est venu comme ça, ce sont les NOCO qui nous ont amené la démocratie, entre guillemets.
Merci.
Mais ici en Afrique, nous savons qu'il y a des pays qui utilisent les seuils, ce ne sont pas des vieilles démocraties.
Merci, merci honorable.
Pourquoi pas chez nous?
Merci honorable Kachongo.
Dépassionnons tout simplement les débats.
Merci honorable. Merci honorable. Professeur Félicien Kabamba, conclusion.
Alors, je crois que le débat qui est initié, il est bon. Seulement, la loi me semble être très rapidement adoptée, alors qu'elle aurait pu
le moment est mal choisi.
Voilà. Et puis, il y a cette vitesse avec laquelle, parce qu'à chaque fois qu'on annonce une élection, eh bien, il y a une nouvelle loi. Et quand vous regardez la loi actuelle, c'est une loi qui a déjà été adoptée pour une élection jamais organisée, alors que l'élection n'a jamais été organisée. La même loi est aujourd'hui soumise à une nouvelle révision. Là, véritablement, il y a une instabilité.
Merci.
Une instabilité qui ne permet pas, si vous voulez, à la République
démocratique
du Congo de construire sa démocratie.
Fin de cette émission. Bonne suite et programme sur la radio de la paix. Au revoir.